Interview.
4 Divois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou alors aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Gilles Bonamy. Bonjour.
Bonjour.
Gilles, vous êtes ici pour parler de vous en premier lieu et puis aussi des activités à laquelle vous êtes rattaché et puis aussi à certaines associations dont vous faites partie et dont vous êtes membre actif. Et d'ailleurs, on pourrait commencer par cette première question. Pourquoi êtes-vous venu sur le Diwa ?
Ah oui, alors je ne suis pas trop parlé de moi, ce n'est pas trop mon genre. Mais ceci dit, pour le Diwa, c'est pour ça que je suis venu ici. Le Diwa, c'est un pays qui est magnifique. Je viens de la région parisienne et les montagnes, la nature, cela me manquait énormément. J'en avais besoin. Et suite à un licenciement économique, j'en ai profité pour venir ici. Le soir même, j'ai pris le train de nuit. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça.
C'était un coup de foudre ou alors il y avait déjà une connaissance de ce pays ?
Je suis venu avec une amie il y a quelques années et c'était un coup de foudre, oui. J'avais envie d'y revenir et c'est ce que j'ai fait.
À l'heure actuelle, on peut parler aussi de ce contexte du Covid, ce qui a ralenti énormément le relationnel entre les individus sur le territoire. Comment as-tu ressenti cette contrainte ?
C'est vrai que pour la plupart des gens, il y a eu vraiment ce manque de relations. C'était criant. Mais de mes activités associatives, presque militantes, je n'ai pas coupé le pont avec les gens. J'ai même encore rencontré des gens sans arrêt. J'ai dû rencontrer, j'ai les coordonnées de plus de 450 personnes un peu plus de 2 ans que je suis là. Essentiellement en m'occupant de la gratuité.
Ce militantisme, c'est une pensée qui t'a pris de toujours.
J'avais des parents qui étaient militants, politiques, et je pense que ça vient de là. La solidarité, c'est quelque chose d'important pour moi. Et ici, le territoire du Diwa permet justement de se plonger dans l'associatif et de rendre possible tous ces rêves qui vont dans ce sens, oui.
En continuant ainsi, on peut parler des associations à laquelle tu participes. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ? Et puis, qu'est-ce qui t'engage auprès d'elles ?
Quand je suis arrivé dans le Diwa, je m'étais renseigné sur Internet, sur le site de la mairie, où sont répertoriées toutes les associations qu'on peut trouver sur Die, étant habitant de Die même. Et j'en ai trouvé au moins 6. Et en fait, je retrouve tout ce que j'avais en région parisienne, mais décuplé ici. C'est assez exceptionnel. Avec vraiment le rationnel. En banlieue, il y a tellement de monde qu'on se croise, on se dit bonjour, mais on ne se connaît pas. Ici, vraiment, on peut tisser des liens avec les gens. Alors, quelles sont les premières associations sur lesquelles je me suis... où j'ai fusionné, c'était la Corderie déjà. Même avant de m'installer, j'étais venu. C'est la Corderie que j'ai rejoint. J'ai trouvé son projet vraiment très intéressant. Ensuite, c'est les Décroissants de Thunes, qui est un collectif d'habitants. Donc, ce n'est pas une association en tant que telle. Ce qui est plus intéressant, il n'y a pas d'hierarchie. Tout le monde peut prendre sa place. Et j'ai essayé de relancer l'association qui était un peu en déclin. Et cette association s'occupe de gratuité. Donc on faisait des gratiférias. J'ai profité d'avoir un grand garage et pas de voiture pour stocker les affaires qu'on pouvait nous donner. Je fais beaucoup de déménagements, j'aide les gens en fait simplement, gratuitement. Et je récupère des meubles aussi, et puis je récupère aussi différents endroits. Et notamment des livres où j'en suis à plus de 12 tonnes récupérées, on en reparlera plus profondément, grâce à Air Trésor, oui.
Ces associations dans lesquelles tu œuvres, donc la Corderie, qu'est-ce qui... On peut parler d'un certain système d'échange d'ailleurs avec la Corderie, puisqu'on donne du temps en échange d'un travail.
C'est ça. C'est ça, on échange des heures contre un travail quel qu'il soit, qui ne soit pas... Donc c'est un système non marchand, où chacun a sa place. Tout le monde peut faire... n'importe quoi, on peut faire de la cuisine pour quelqu'un, faire son ménage, on a tous des compétences, et aucune compétence n'est plus petite qu'une autre. Moi, mes compétences, elles vont des cours de maths, physique. J'étais prof de maths, physique en lycée professionnel, dans une banlieue populaire, à des tas de choses. Je peux faire du jardinage et je fais des déménagements avec la corderie pas mal aussi. Et quand on me propose un coup de main pour déplacer des meubles ou n'importe quoi, eh ben, je suis là.
À t'entendre, tu parlais tout à l'heure de la ville où les gens se croisent mais ne se connaissent pas. On peut parler aussi de la vie d'un quartier dans une ville, où là, c'est peut-être un peu plus facile pour rencontrer des individus et d'entretenir des relations. Mais est-ce que toi, en tant qu'enseignant en mathématiques physiques, est-ce que, à un moment donné, tu t'es dit, qu'est-ce que je fais vraiment ?
Alors, le fait d'enseigner déjà dans un quartier populaire, Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, à des enfants, moi ils étaient plutôt adultes, hein, mais à des personnes qui avaient un diplôme à la suite et qui travaillaient dans une région où il n'y a pas beaucoup de travail, donc j'avais un rôle important et je me sentais utile. Bon, maintenant, il est vrai que dans l'éducation, il y a des choses à revoir, c'est évident, ça va de la façon d'enseigner, mais là, on a la liberté d'enseigner quand même, aux programmes qui sont imposés. Moi, j'avais la chance de faire passer le bac. Donc du coup, je pouvais mordre sur les programmes, sur des choses intéressantes, pour essayer de faire des citoyens de mes élèves, quitte à sauter une partie du programme, tant qu'ils travaillaient dans ce que je leur proposais, et même si on ne faisait pas tout, ce n'était pas grave. Il fallait aussi en faire des citoyens.
Mais tu parlais de l'engagement que tu avais déjà auprès de la corderie en étant en ville. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y avait aussi des limites, puisque quand même le ferment de toute société actuellement, c'est l'argent. Est-ce que la corderie avait vraiment prise sur ce quartier ou cette ville où tu étais ?
Alors, je me suis peut-être mal exprimé, mais... J'ai dit avant d'intégrer DIE réellement, donc je suis venu pour chercher une maison, donc j'étais venu et je m'étais inscrit à la corderie. Donc c'est ici que je me suis inscrit à la corderie et non pas où j'étais avant, ça n'existait pas, bien qu'il y en ait une à Paris. Voilà.
D'accord, bon ben du coup je relève la question.
Voilà. On peut reprendre les questions sinon s'il faut.
Ouais. Et puis ensuite il y a eu la gratiféria. Ça c'est aussi quelque chose que tu as découvert dans le DIE ou tu en avais déjà entendu parler ?
Ah, c'est une réelle découverte, la gratiféria. C'est grâce aux décroissantes thunes que j'ai découvert ça, complètement. Et c'est quelque chose qui marche très, très bien, qui permet de discuter politique avec les gens, notamment quand on en faisait au bord de Drôme, on mettait les vêtements étalés sur la pelouse. On discutait avec les touristes qui passaient là et ça les interrogeait. Beaucoup étaient étonnés de la gratuité, ça ne leur revenait même pas à l'esprit. Et certains disent, il faudrait qu'on fasse ça chez nous. Et je suis vachement sur l'exemple, beaucoup sur l'exemple, en disant, il faut que ça fasse tache d'huile. Et ça fonctionne, et on le voit ici, ne serait-ce que dans le DIE, avec les livres. Ça se développe à une vitesse étonnante.
Oui, d'ailleurs, les livres, il y a cette bibliothèque installée auprès de l'office de tourisme. Dans la rue Saint-Vincent, il y a aussi une petite borne. Et principalement aussi rue du Salin, avec plusieurs meubles. C'est donc un travail, tu disais, à laquelle tu as récupéré 12 tonnes d'ouvrages auprès de Air Trésor. Comment s'est passé justement cette jonction avec Air Trésor et qu'est-ce qui t'a amené justement à te décider à relayer ce que propose Air Trésor dans le centre-ville ?
Alors, c'est Air Trésor qui a contacté les décroissantes thunes. Donc moi, j'ai reçu un mail par l'intermédiaire, je pense, d'Amélie Sou, qui était une des fondatrices de cette association, de ce collectif. Et ils en avaient marre, je pense, de jeter les bouquins. Ils en jetaient énormément, donc c'est sans doute des tonnes et des tonnes qu'ils ont jetées. Et les gens n'ont pas donné pour que ça soit jeté. C'était ça, des livres qui sont en bon état. Et il y a vraiment de tout, mais vraiment, et de toute époque. Et on a essayé, et ça a bien marché, donc on a continué. J'en suis à 3 bibliothèques devant chez moi. Donc, comme tu le disais, vers l'office de tourisme, il y a un ami, Philippe, qui a accepté d'en mettre une chez lui. Et il y a une nouvelle à la rue Nouvelle, il y en a une encore une petite boîte. Il y en a une toute récente qui s'est mise après le pont rompu, un peu plus haut, sur la gauche. Vous pouvez vous balader, vous la trouverez. L'espace social, il y en a une aussi. Et dans d'autres villes, ça fait tache d'huile. Il y a une jeune qui a accepté d'en mettre une à Poney, donc à la mairie de Poney. Maintenant, vous pouvez aller prendre des livres dans une armoire, une grande armoire. Et je sais qu'il y en a à Luc en Diwa. Il y a une réflexion actuellement. J'ai croisé quelqu'un qui voulait en mettre, des jeunes femmes qui voulaient en mettre aussi à Châtillon. Et j'entends parler qu'il y en a un peu partout. Il y en a à Pontet. Et j'ai oublié tellement il y en a. En fait, ça fait vraiment tache d'huile.
On a même vu des ouvrages aussi dans certains cafés, hein, proposés en lecture sur place, ou quitte à les emporter même. C'est une proposition pour recevoir le public dans son établissement, de proposer peut-être un peu de lecture. Ces ouvrages, pour ma part, je voudrais observer une chose, j'en regarde de temps en temps, qui émane de bibliothèques départementales. Et des fois, je m'interroge sur le choix des livres qui sont annulés, je crois. Il y a un terme, hein. Un livre est annulé quand il n'est plus en prêt dans une médiathèque. Et souvent, je me réfère à des ouvrages qui traitent de la résistance ou de l'occupation ou de l'histoire. Est-ce que il y a une espèce de cécité montante dans certaines bibliothèques de la Drôme, hein. Je pense notamment à Cré, parce qu'il y en a quelques-uns qui viennent de là.
Alors là, sincèrement, je n'ai pas assez de recul là-dessus. Je ne sais pas. Moi, je prends les bibliothèques, les livres comme ils arrivent. Bon, je regarde les titres et je les mets en rayon. Et je ne fais pas forcément attention à tout ce qu'il y a. Il y a quand même pas mal de choses sur la résistance. Souvent, c'est des choses qui viennent de particuliers. Et il y a de la demande. Notamment là, j'ai quelqu'un qui me les prend pour le musée de la résistance.
Voilà, je pensais à un ouvrage d'Henri Amouroux, Les Français sous l'occupation, par exemple.
D'accord.
Et puis ensuite... Il y a ces livres. Qu'est-ce qui t'engage en toi à s'occuper de ces livres et de partager donc une culture de la science?
Je n'ai jamais beaucoup lu, et depuis que je suis dans le Diwa, avec cette effervescence de livres qui arrivent de tous les côtés, parce que les gens en donnent beaucoup aussi, hein, et comme je fais des déménagements, j'en obtiens, et parfois de très grande qualité. J'ai même des livres du XVIIe siècle qui sont là. Il va falloir que je me décide à quoi en faire, peut-être les donner à la BNF si ça les intéresse. Je découvre en fait vraiment la lecture. Mais mon but au départ, c'était vraiment que ça ne soit pas acheté, que ça soit recyclé. Il faut arrêter de consommer aujourd'hui, quel qu'il soit. Je ne fais pas que les livres. Dans mon garage, je stocke beaucoup de meubles et on les distribue. Il y a des jeunes qui arrivent faire des formations au Greta, au CFPPA notamment, qui sortent de camions, qui n'ont aucun meuble, ils trouvent une location pour l'année, et il n'est pas rare que je les meuble complètement. Et c'est des gens qui n'ont évidemment très peu de sous. Donc il y a un rôle social important et il faut vraiment arrêter de consommer.
Actuellement, c'est une activité qui n'est pas trop débordante pour toi, ou alors est-ce que tu as le soutien ou l'aide de personnes aussi pour cette proposition?
Alors ça prend beaucoup de temps, c'est sûr, comme c'est dans mon garage, c'est moi qui m'en occupe essentiellement. Là, récemment, une amie m'a aidé à bien ranger, puisque le garage s'est pas mal vidé, donc tant mieux, on a pu ranger comme il faut. J'ai du soutien sans problème. Beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'ils aimeraient me filer un coup de main, et malheureusement, j'ai pas toujours de quoi leur donner. J'ai pas besoin forcément de main d'œuvre sans arrêt, et c'est dommage, parce que je pense que dans une association, quand quelqu'un veut demander de l'aide, une chose importante, c'est tout de suite lui sauter dessus en disant « mais viens m'aider à faire ceci, viens faire ça », ou on fait une réunion, on décide de faire des choses, et là on perd beaucoup de capacité en fait en faisant ça. Et en parlant de ça, j'ai un projet, j'ai beaucoup de projets en fait en tête, et un qui peut être intéressant, et j'en parlerai à la mairie de plus ample façon, c'est qu'on refasse, quand le Covid sera terminé, des réunions d'accueil des nouveaux arrivants du Diwa. Il y en a beaucoup. Un quart de la population change tous les ans, sur 10 même. C'est énorme. Et je pense que c'est en dessous des chiffres officiels, parce qu'il y a des gens qui sont en cohabitation, etc. Et c'est pas forcément calculé tout ça, à compter plutôt. Et il faudrait les accueillir avec le monde associatif, que les associations puissent se présenter, et grâce à ça, elles recueilleraient énormément de monde, parce que les premiers à venir aux associations, c'est les nouveaux arrivants. C'est ceux qui ont envie de s'engager dans la vie publique, là où ils vont de nouveau vivre.
Il y a d'autres structures à laquelle tu participes aussi ?
Oui, il y en a au niveau politique. Je ne vais pas forcément citer la chose. Je ne suis pas là pour faire de la pub. Mais par contre, on a essayé de monter une liste citoyenne, un peu comme il y avait à Saillant, où on tirerait vraiment des aspirations des gens et pour faire la politique de la ville, où c'est les aspirations des gens qui feraient la politique de la ville. Et bon, on n'a pas réussi à faire une liste. Un tiers de notre liste a rejoint la mairesse actuelle. Et je pense qu'ils essayent de pousser dans ce sens-là. Le Covid a freiné un peu les choses et j'espère qu'on arrivera à faire participer un maximum de personnes dans ces 5 ans.
À l'avenir, tu envisagerais aussi de peut-être conforter cette activité de manière à être peut-être encore plus visible Ou alors, c'est une activité qui te suffit amplement avec ce qu'il faut d'intimité
De quelle intimité
Je parle de ces dons de meubles ou d'échanges de livres ou de dons de livres.
Alors, intimité, c'est pas le mot que j'emploierais, vu que j'ai rencontré beaucoup de monde. Tous les jours, quasiment, je donne des meubles, des objets, ça n'arrête pas. Sans parler de notre gratiféria qui a lieu tous les mardis. Là, on l'a fermé à cause du Covid, mais on va bientôt rouvrir, j'espère. Et donc, c'est pas du tout confidentiel. Et mon numéro de téléphone circule, les gens m'appellent. J'ai sans arrêt des numéros que je connais pas qui m'appellent, enfin, très souvent, qui cherchent des choses. Et donc, c'est vraiment pas confidentiel et ça prend quand même, c'est vrai, beaucoup de temps à organiser. Il faut être là pour que les gens viennent voir, etc. C'est, voilà. Mais je ne sais pas encore quelle forme ça pourrait prendre autrement. C'est sûr que si on avait un grand magasin gratuit, ça serait quelque chose de fabuleux. Mais qui dit magasin dit aujourd'hui, il faut louer quelque chose, donc on n'est plus dans la gratuité. Ou alors, il faut qu'un particulier veuille bien nous prêter quelque chose ou voir avec la mairie. Mais les salles sont vétustes, ils sont en train d'essayer de les rénover. C'est pas évident, on verra à terme.
Il y a cet engagement militant qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qui te motive justement de manière à transformer la société et puis d'ouvrir le regard sur une autre manière de vivre entre soi, et c'est-à-dire en faisant abstraction de l'argent, de manière à impliquer aussi plus les échanges de personnes et de pensées?
Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Pour moi, c'est dans mon ADN, c'est la solidarité, l'échange. Je suis contre une société du chacun pour soi. Voilà, moi, je suis anticapitaliste, donc je ne peux pas me fermer sur moi-même et chercher mon propre profit. Ce que j'apprécie aussi dans le DIWA, c'est que je rencontre, sans généraliser, beaucoup de personnes, et pas seulement des jeunes, qui essayent justement de vivre. Ils savent qu'ici, il n'y a pas beaucoup de travail, donc ça va être des travaux saisonniers. Ils vont gagner ce qu'ils vont gagner. Et ça suffira, ils vivront avec. L'important, c'est d'être heureux et vivre bien dans le territoire. Et on a un gros problème ici, c'est que les loyers sont très chers et les jeunes s'en vont. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et c'est l'égoïsme des possédants aussi, il faut le dire clairement. Ça, ils disent c'est le marché, c'est les tarifs du marché, et voilà. Mais on n'est pas forcé de suivre les lois du marché capitaliste.
Et puis justement, avec ce Covid, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il y a une grande vague d'achats d'immobilier sur le DIWA. C'est aussi synonyme d'augmentation de loyer, donc une inaccessibilité pour beaucoup à ces logements. Est-ce que tu crois possible au logement justement gratuit ?
Le logement gratuit ? Moi, je suis pour une gratuité totale sur tous les niveaux. Ça ne se fera pas, bien sûr, du jour au lendemain. Là, les choses sont progressives et il faudrait déjà commencer par un changement de mentalité, je pense. Et c'est ce qu'on fait avec les gratiférias et ça marche pour l'instant. Les gens évoluent là-dessus. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. J'aurais des exemples, je ne vais pas les donner parce que ça mettrait en porte-à-faux d'autres associations. Mais il y a encore vraiment des gros changements de mentalité à faire à ce niveau-là. Mais lisez Paul Ariès, par exemple, un des leaders de la décroissance. Et la décroissance, c'est pas la croissance zéro. On a besoin de santé, on a besoin d'éducation. Hein. Attention, les débats souvent sont faussés là-dessus et on montre du doigt les décroissants. Non, non.
Et puis, il ne faut pas croire que la décroissance est un mouvement perpétuel. Il a besoin d'être alimenté aussi.
Je dirais comme toute philosophie politique, elle est en permanente, elle doit être en permanente évolution, sinon elle se sclérose, quoi. C'est ce qui se passe avec les partis politiques actuels. Ils sont dépassés, ils font finir avec les partis politiques, je pense.
Qu'est-ce que tu reproches au capitalisme ?
Le capitalisme, c'est la recherche du profit. Il n'y a pas peur d'écraser son prochain pour faire du profit. Et donc, premièrement, moi, quelqu'un soit plus riche que moi, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi faire ? Et la question, c'est là où elle se pose. Le bonheur n'est pas dans la possession. Et si on peut partager ce que l'on a, ce n'est pas encore mieux.
La culture a été très mise à mal hein, au niveau du Diwa, comme partout en France. Quel est ton point de vue justement sur ces événements d'occupation du théâtre ou du cinéma actuellement ?
Pour moi, ces mouvements populaires qui vont des Nuits debout aux Gilets jaunes, en passant par les occupations aujourd'hui des lieux culturels, vont dans le même sens. C'est vraiment créer du commun et faire une nouvelle société. Là, la culture, c'est un... presque un... En fait, quand on... si on va, par exemple, aux réunions qui peuvent se passer actuellement au cinéma de Di, je crois qu'il finit aujourd'hui, hier, l'occupation, il le rend à Jean-Pierre qui le gère. Et on ne parle pas forcément que de culture, on parle de tout, en fait. Hein, et c'est refonder la société, et c'est ça qu'il s'agit. Et on voit qu'on a vraiment besoin d'un lieu où on puisse partager ensemble, réfléchir et construire ensemble. Ça, c'est très important. C'est une forme d'autogestion. Et on doit aller, comme je disais tout à l'heure, faire de l'autogestion et dépasser les partis politiques qui sont complètement sclérosés, qui ne cherchent en fait qu'à grossir, qu'à ne perdre moins de place possible, avoir le plus de subventions, enfin... Ils n'ont plus leur rôle.
Ou diviser, tout simplement.
Ou diviser.
Gilles, qu'est-ce que tu envisages pour les prochains temps, au niveau estival, par exemple ? Est-ce qu'avec le biais de l'accorderie ou de Gratiferia, vous tenderiez aussi à vous exposer plus au grand air ?
Alors... C'est marrant que tu poses cette question. Je viens de récupérer là, dans la benne d'Air Trésor qui a été jeté un chariot qui sert à faire le ménage un peu partout, enfin, notamment dans les hôpitaux, les gros chariots là, bleus en plastique. Et je me suis dit que c'était très pratique, il y a des bonnes roues, on peut les remplir de bouquins et puis mettre ça au bord de Drôme, par exemple, pendant que les touristes se fassent bronzer ou se baladent dans le coin. Et c'est un bon moyen de faire découvrir la gratuité aussi. Voilà un petit truc.
Et puis Gilles, nous annonçons une prochaine sortie d'émission à laquelle tu contribues et qui s'intitule donc Air du temps. Est-ce que tu peux nous en donner la teneur ?
Moi, il y a une époque, je traînais beaucoup dans les milieux de la chanson française en région parisienne, à Paris même, où j'ai rencontré des grandes personnes comme Alain Lepresse, par exemple, Anne Sylvestre, Francesca Soléville et bien d'autres, Romain Didier, enfin bref, j'en passe. Et c'est des chansons qu'on appelait d'expression française à texte, où il y a vraiment un texte intéressant, bien écrit, et souvent d'ailleurs des musiques intéressantes aussi. Et je trouve que ça manque à Air Diwa d'avoir une émission de chansons françaises. C'est pour ça que je m'y emploie et j'ai pensé à l'appeler l'air du temps. Pourquoi l'air du temps ? Parce que l'idée, c'est de partir de ce qui se passe dans le Diwa aussi ou de l'actualité nationale pour mettre des chansons en concordance avec ce qui résonne aujourd'hui dans l'air du temps.
Les enfants de verre de Alain Lepresse, justement, c'est une chanson que je mettrais bien.
Ouais.
Pour finir cette émission.
C'est un très très bon choix.
Et puis, on peut peut-être s'enseigner auprès de toi par rapport à tes services ou alors aussi, quelle est la relation au-delà même de ces échanges, de ces dons d'objets ou de récupération d'objets quels sont ces rapports qui vous maintiennent entre vous tous ?
Tu parles de...
Au niveau humain.
Pas trop comment répondre. C'est vrai que les gens que je rencontre qui ont besoin de quelque chose, quand je leur dis « viens voir ce qu'il y a dans le garage » ou « oui, j'ai ça, tu le veux, tu peux venir le chercher », bon, on se rencontre, ils le prennent et souvent on se recroise après. Et puis, toujours avec le sourire, les gens ont une certaine sympathie du coup pour moi et ça, c'est très agréable. Et je crois que si on doit retenir une chose du bénévolat, c'est ça aussi. Hein, c'est, on gagne en estime de soi, on est dans les autres, en étant simplement utile.
D'ailleurs, le bénévolat, c'est un bien grand dommage. Il n'est pas tellement reconnu par l'État et il n'y a pas vraiment un soutien. Hein. C'est plutôt plutôt malveillant, je dirais, à l'égard du bénévolat. Est-ce que c'est un sentiment que tu ressens parfois ?
Je dois avouer que j'ai une conception du bénévolat qui fait que j'essaye de me couper de tout ce qui est institutionnel. On cherche jamais... J'ai dit tout à l'heure que je préférais les collectifs aux associations. Du coup, pas de subvention de la mairie, par exemple. Mais du coup, on est complètement indépendant. Et si on a besoin d'argent, ben on se débrouille entre nous. On peut toujours faire une fête, on peut toujours se cotiser, trouver d'autres moyens. Bien que on ne crache pas, si jamais on a besoin d'une salle, on demande à la mairie, bien sûr. Voilà où s'arrête, en fait, au niveau institutionnel. Donc, j'attends pas forcément une reconnaissance personnellement, peut-être que j'ai tort, je n'ai pas réfléchi sur le sujet de la part de l'État ou des institutions. Une reconnaissance quand même de la part de la mairie, ça serait bien. Ça, c'est... Et là, jusqu'à présent, dans cette nouvelle mairie, on l'a beaucoup plus que la précédente, c'est clair. On était quasiment... on n'existait pas, quoi. Vraiment, on avait... j'ai ce sentiment-là.
Ça a été libérateur, ce changement de mairie ?
Pour moi, oui, mais enfin maintenant, rien n'est joué. Encore une fois, le Covid a freiné beaucoup de choses. Il y a des choses qui se font et il faudrait qu'ils communiquent plus sur ce qu'ils font aussi. Et il faut prendre ça, nous, de prendre aussi la parole et puis de dire ce que l'on veut, de s'organiser par quartier. Ça, c'est important, il va falloir qu'on le fasse. Hein.
Tu parles de chansons. C'est des chansons aussi que tu écoutais dans l'enfance ?
Il se trouve que à la maison, on n'écoutait pas forcément de musique. On avait quelques 33 tours et c'est tout. Quelques 33 tours de Jean Ferrat, voilà. Donc, je me suis fait tout seul en allant à la médiathèque, chercher des 33 tours, découvrir des choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert plus tard la chanson française progressivement. Et j'aimais chanter, c'est ça, surtout.
Et la radio, alors, à cette époque-là, ne correspondait pas à ce que tu recherchais dans leurs propositions ?
Alors, c'est vrai que moi, je suis né en 71, donc j'ai grandi dans les années Mitterrand, les années 80. Bon, vous me direz rien à voir avec la chanson française, mais le synthétiseur est arrivé et je pense qu'il a bouffé la chanson française, en fait, et empêché, en fait, d'avoir des choses vraiment sympathiques. Écoutez Piaf, écoutez Aznavour, ils ont gardé des orchestrations, Anne Sylvestre, et c'est fabuleux. Et dès que le synthé est arrivé, il a tout détruit. Et on peut voir certains artistes, d'ailleurs, où on voit vraiment la transition très, très nette entre leur premier album et l'arrivée des synthétiseurs qui a gâché. Et on perd même sur les textes. En tout cas, ça ne les met pas en valeur. Mais moi, je pense plutôt à ceux qui ne sont pas connus, qui ne passent pas dans les médias et qui sont vraiment fabuleux. Il y a des plumes incroyables. Mais on a perdu encore une fois Anne Sylvestre il y a quelques mois. Écoutez-la, c'est fabuleux ce qu'elle peut dire. Mais il y a Alain Leprest aussi. Alors, ses premiers albums avaient du synthétiseur et ils sont assez moyens, du coup, même si les textes sont très beaux. J'ai du mal, moi, à les entendre. Mais il y en a beaucoup, 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 vraiment. Bernard Joyet, regardez sur Internet, allez regarder Bernard Joyet, ça peut être très drôle. Et parfois triste aussi. C'est fabuleux. Ben là, R Trésor me donne des 33 tours. Pareil, qu'ils en ont trop, ils ont pas, ou qu'ils sont un peu abîmés, les pochettes, donc ils ne vont pas les vendre. Et du coup, je découvre aussi certains albums que je ne connaissais pas de chansons françaises. Là, j'écoutais du Georges Chelon tout à l'heure avant de venir, et puis plein d'autres encore. Je passerai des vinyles aussi dans l'émission, puisqu'on peut faire comme ça, c'est très bien.
Mais ton optique est surtout sur des artistes pas très connus, en somme.
Alors oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut faire découvrir des artistes méconnus, avec un grand intérêt, mais il ne faut pas se couper aussi de la joie de redécouvrir des belles mélodies, même si les textes sont moyens, et mis dans le contexte actuel, ça peut être sympathique, c'est ce que je m'efforçais à faire, que ça plaise à tout le monde.
Et puis la musique, c'est aussi un souvenir d'une époque, d'un bonheur aussi.
Non, pas du tout. J'ai pas de souvenir particulier. Les bonheurs que j'ai eu en chanson, c'est plutôt de chanter avec des amis. C'est ça qui est sympa. Je m'organisais parfois des raclettes autour d'un petit feu et on chantait ensemble. Et une fois qu'on avait commencé, on s'arrêtait plus. Hein, voilà. Et c'était un de mes projets dans le DIY. On l'a fait deux fois et ça a marché super bien. C'est qu'on se retrouve à plusieurs. J'avais lancé une invitation peut-être 3 heures avant, je sais pas, une bonne centaine, 200 personnes. On s'est retrouvé à une dizaine avec des paroles et on a chanté ensemble pendant des heures. place de la Comtesse, et c'était super. On l'a refait quand il a plu chez moi, on était un petit peu moins, et tout le monde était content, et de toute génération. Et c'est quelque chose que j'aimerais multiplier, ça, quand le Covid sera terminé, on pourra se rencontrer de nouveau et chanter tous ensemble. C'est magnifique, ça.
Gilles, pour te contacter, par exemple, justement, pour demander un meuble, quels seraient les contacts possibles pour te retrouver ?
Eh bien, le plus simple, c'est de venir à la Gratiferia tous les mardis, de 10h à 17h non-stop.
Et ça se passe où ?
Oui, c'est rue Émile Laurence, on ne peut pas le louper. On met un clown juste dehors, c'est très visible.
Alors, à l'heure actuelle, tu disais que la boutique était fermée, mais vous avez des ouvertures pour les jours de marché, je suppose, avec le principe du click and collect, en quelque sorte ?
Non, pas du tout. Après, quand il y a une urgence, par exemple, j'ai un SDF qui m'appelait et qui avait perdu tous ses vêtements, on ouvre et il est content, il a trouvé tout ce qu'il lui fallait et ça, c'est super. Donc, dans l'urgence, on sait me contacter en général et on trouve. Pareil, en fait, alors, ce qui est important de dire, c'est remercier La Parallèle, qui est une association qui s'occupe des migrants ici, qui les aide à trouver une famille d'accueil, des jeunes, à pouvoir se scolariser. En général, ils vont au lycée professionnel, me semble-t-il. Et voilà, et créer des solidarités. Et c'est eux qui nous prêtent le local tous les mardis, puisqu'ils ne se servent pas pour l'instant de cette salle-là. Voilà.
Gilles Bonamy, je te remercie d'être venu à Ardua pour nous parler un peu de tes activités et puis de tes passions.
Mais tout le plaisir est pour moi. Merci Yves.
Allez, bonne fin de journée. Au revoir.
Toi aussi.
Y'a pas que sur terre les petits enfants de verre, y'a aussi des fois les petits enfants de bois, les petits qu'on attache au pan de leurs tâches et qui vieilliront bonnets d'âne au front. Y'a pas que sur terre les petits enfants de verre, y'a aussi des fois les petits enfants de bois. Y'a pas qu'elle au monde, les petites feuillottes blondes, les petits pulls à rose qui s'engueulent en prose. Faut pas oublier les petits en papier, les petits au charbon et ceux en carton. Y'a pas que sur terre les petits enfants de fer, y'a aussi des fois les petits enfants de bois. On dirait qu'il y a que les petits au sang bleu, les petits puis la chance, 3 mois de vacances. Y'a des fois aussi les petits montres tout gris qui fument en cachette l'avenir qui les regrette. Y'a pas que sur terre les petits enfants de fer, y'a aussi des fois les petits enfants de bois. Qu'elles sont le ciel, les tartines de miel, les petits gna 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 qui sucent du nougat. Y'a des fois encore des petits enfants morts, y'a des fois toujours des petits morts d'amour. Y'a pas que sur terre les petits enfants de fer, y'a aussi des fois les petits enfants de bois.